Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut Simon, bienvenue. Ce qui est fou, c'est que tu nous viens du Discord, où tu es particulièrement actif. Et ça, c'est le premier invité qui vient du Discord de Northcore. Donc voilà un argument supplémentaire pour y aller.
Carrément, d'autant plus qu'on a une petite communauté, on est...
Il n'y a pas une activité de dingue non plus, mais c'est intéressant justement pour se donner un peu des news et pour expliquer un peu avant. Est-ce que toi, tu peux nous raconter ce que tu fais dans la vie actuellement? Tu es étudiant, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Tu nous venais d'un cours de philo, là.
Ouais. Bon, ce n'est pas ma matière forte, mais... Ouais, moi, je suis étudiant ingénieur à l'ISEP, donc c'est à Paris, Institut supérieur d'électronique de Paris. Et actuellement, donc je sors d'une deuxième année de prépa, là, donc MPSI, PSI. Et là, maintenant, c'est... Direction la première année d'ingénieur et recherche d'alternance pour ma part.
Comme section à l'ISEP?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a intelligence artificielle, système embarqué, cybersécurité, sciences des données. Moi, je vais partir sur le système embarqué.
Ok. Oui, c'est... petit indice. Ouais. Petit indice.
C'est style, n'empêche l'ISEP. Parce qu'elle propose, les sections sont cool, quoi.
Ouais, j'ai failli faire ça. Ça fait partie des quelques écoles d'ingé parisiennes. Okay. À post-bac, si tu veux pas te taper la prépa, en gros, tu peux.
Ouais, c'est
pourtant, toi, t'as fait PSI et PSI quand même.
Ouais, mais c'est intégré plus ou moins. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est.
Une prépa.
Oui, ça me semblait bizarre que ça soit intégré à l'école, mais que ce soit quand même PSI.
C'est une prépa intégrée, donc t'as pas de concours
c'est
à
ça.
La fin.
Ouais. C'est une prépa associée, c'est encore plus bizarre, mais c'est vraiment des détails.
Ok. Et est-ce que t'es déjà passé sur Twitch?
Je suis jamais passé sur Twitch. Non, jamais.
C'est le baptême.
Ouais. Là. On aime bien sur Discord avoir des gens.
Est-ce que ça serait pas ton TIPE?
Non.
Parce qu'en prépa, on avait préparé
Ouais, j'y ai pensé, mais non, parce que c'était compliqué, parce que je me disais j'aurais pas le temps de le finir.
Ouais.
Mon TIPE, c'est un bateau télécommandé, donc vraiment rien à voir.
Stylé. C'est comme stylé.
Eh ben, mets-toi à l'aise. Et ça va être hyper intéressant. Moi, je suis pas sûr qu'on s'est réservé la partie la plus simple en fin d'émission.
En fin d'émission,
à mon avis. Là, on est un peu diminué. On va parler de, on va parler d'architecture et de CPU. On va justement rentrer un petit peu dans le détail. Mais juste avant, je dois faire ma petite intro habituelle. Aujourd'hui, on reçoit Simon, un étudiant de 19 ans passionné d'électronique. Il s'est donné le défi fou de fabriquer son propre processeur. Alors, je peux vous dire, fabriquer un processeur, c'est quand même un sacré défi. Un sacré défi, c'est l'élément central de l'ordinateur, et surtout potentiellement le plus complexe. Simon, tu es venu avec ta maquette, justement, qu'on a là. Bon, de loin, ça ne ressemble pas forcément à mon i7.
Ouais.
Mais justement, tu vas pouvoir nous expliquer comment tu as réalisé ce qui est, ou ce qui peut-être va bientôt être, une vraie architecture de processeur, puisqu'il marche a priori.
Ouais.
Et ce sera l'occasion pour tous les gens qui n'ont, comme nous, jamais compris exactement ce qui se passait au cœur de notre ordinateur, d'y voir un petit peu plus clair, justement, avec un objet physique qui est compréhensible, a priori, sans un microscope. Je suis vraiment très curieux que tu nous expliques quels sont un petit peu les on voit des fils partout. Ça a l'air compréhensible comme ça de loin, mais je me doute qu'en réalité, c'est un peu plus compliqué. En préambule, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans ce défi complètement dingue déjà?
Alors déjà parce que je m'amuse à chercher comment fonctionnent les choses depuis toujours. Je suis extrêmement curieux. Donc ça va aller regarder des protocoles comme le JPEG et puis comprendre comment ils marchent directement en hexadécimal. Et l'algorithme YouTube a fait que j'ai commencé à plonger dans des petites niches. Et je suis tombé sur la chaîne d'un YouTuber américain qui s'appelle Ben Itter. Et donc c'est lui qui construit en premier cette machine, donc je m'attribue pas tous les lauriers, c'est quand même pas uniquement mon travail. Et donc j'ai trouvé ça absolument passionnant et évidemment qu'il fallait que je fasse la même chose. Donc j'ai commencé à vraiment poncer sa chaîne, à suivre toutes les vidéos, à essayer de comprendre comment il fait. Et à un moment j'ai sauté le pas, j'ai acheté tous les composants et j'ai commencé à construire le mien.
Et donc ton objectif c'est de créer un processeur, est-ce que à partir de quand on peut appeler ça un processeur, une machine comme ça, un circuit électronique comme ça?
C'est compliqué à dire, d'autant plus que c'est pas complètement un processeur, dans le sens où il y a carrément une sortie, il y a un affichage, il y a de la RAM, alors que la RAM, ça serait plutôt en dehors d'un processeur. Donc, c'est presque un PC complet, en fait, même si c'est surtout le processeur qui est la partie calcul, la partie registre, qui prend la plupart de la place. Mais c'est en fait une machine, ça se dit Turing complete, donc ça va permettre de faire tourner n'importe quel algorithme, en théorie, bien sûr, parce qu'on est quand même très limité. Mais
justement, on va rentrer un peu dans le détail pour comprendre c'est quoi cette histoire de Turing complete. Et là, tu viens de parler de registre, tu viens de parler de faire des calculs. Et c'est des mots qu'on entend en rapport avec justement des processeurs, mais juste, ce sera l'occasion de comprendre une fois pour toutes ce que ça veut dire. Déjà, toi, au moment de te lancer là-dedans, il faut quoi comme compétence ? Est-ce que tu as déjà des bases en programmation ou en électronique ? C'est quoi, toi, ton bagage ? Donc, pour rappel, tu as 19 ans. Ouais. Et est-ce que tu as commencé déjà des projets avant celui-là ?
J'ai commencé surtout de la programmation. Je pense que c'est mon vraiment premier projet d'électronique, proprement dit, à part quelques petits projets à droite à gauche de vraiment bidouille. C'est vraiment mon premier projet d'électronique. Mais ouais, j'ai fait un peu de code avant. J'ai commencé avec du C# pour faire des jeux vidéo sur Unity. Ensuite, j'ai passé sur du Python, évidemment. J'ai fait un peu de C. J'ai fait un peu d'assembleur parce que c'est trop bien.
Tout le monde n'a dit pas ça. Non, moi, je me souviens de mes cours d'assembleur, j'étais pas en mode « Waouh !»
Ah si.
Mais alors justement, l'assembleur, c'est un peu la couche la plus basse en termes de programmation avant le langage dit machine. Toi, au moment de te lancer dans la construction d'un processeur, c'est à ce niveau-là que tu dois être. Tu dois avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qui se passe au plus profond d'un ordi, en fait.
Ouais, c'est ça, mais on n'est pas obligé d'avoir un très grand niveau d'assembleur, parce que le fait de construire ça aide à comprendre, en fait, l'assembleur, parce que ça te semble beaucoup plus évident quand tu sais ce qui se passe derrière, vu que c'est directement, tu parles à ton processeur, si tu sais comment lui fonctionne, ça te paraît plus logique. Donc ça aide, et voilà.
Et juste pour, du coup, faire un petit état des lieux, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les composants qu'on voit et c'est quoi un peu les différentes zones de ton ordi. On va vous mettre une petite vue du dessus. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est, je ne sais pas si tu pourras te balader dedans, mais je pense que c'est pas nécessaire. On voit
donc
bien.
Cette image qui est affichée actuellement, c'est pas tout à fait la mienne. Quand même, je donne les mérites. C'est l'image d'une personne sur un Reddit. Il y a un Reddit de passionnés qui font à peu près le même projet. Et donc celui-là, c'est une version finie. On voit que ici, il manque sur le mien quelques petites parties. Mais ça ressemble à peu près à la même chose. Donc en haut, à gauche, on a d'abord la cloque, qui est l'horloge en français, qui permet de donner une cadence, donc ça génère un signal carré et qui pulse à une certaine fréquence, qui est réglable avec un petit potentiomètre qu'on voit en haut à gauche. Et ça permet donc vraiment de gérer la fréquence en fonction de si on veut aller très très vite pour faire tourner un algorithme, ou si on veut le mettre vraiment pas à pas pour débugger une erreur sur le bus ou quelque chose comme ça.
Donc en gros, c'est un peu le chef d'orchestre des calculs.
Complètement. Ensuite, juste en dessous, on a plein de blocs. On en a, je dirais, les trois suivants. C'est la RAM, en fait. Donc on a le premier qui va gérer les adresses. Donc soit manuellement avec un petit switch qui est bleu sur celui de l'image, soit depuis le bus, il peut récupérer les adresses du bus. Pour commencer directement avec le...
Un bus ?
Ouais, c'est ça.
C'est quoi un bus ?
Un bus, c'est tout bête, c'est une grande autoroute de données où tout le monde est connecté à peu près dessus, donc c'est celui qui est en plein centre du processeur, et ça permet de communiquer des données entre deux blocs de la machine. Donc ça permet de transmettre.
Donc en fait, c'est un fil électrique qui passe un signal.
Ouais, ça, en l'occurrence, c'en est 8, parce que c'est un 8 bits, mais sur les processeurs 64 bits que vous avez, c'est un bus de 64 bits.
Donc si on zoome, on verrait littéralement 64 fils qui transmettent à haute fréquence des octets, quoi.
Complètement, il n'y en aurait pas qu'un seul, il y en aurait même plusieurs, des bus.
Ah oui, on le voit là, le bus.
Ouais.
Magnifique autoroute.
On dirait le plan de réseau de Séoul. le réseau ferroviaire là-bas.
Ok, donc la cloque, tu sais qu'elle était juste au-dessus. Après, il y a la RAM.
Ouais, donc ensuite, juste après, il y a donc les adresses de la RAM. Donc soit manuelle, soit automatique depuis le bus, qui permet de soit la programmer, soit de faire tourner un algorithme qui a besoin de régler certaines adresses de la RAM.
Son job, c'est quoi, en gros, pour expliquer à la RAM ?
À la RAM, ça permet de stocker des données, mais de manière volatile, dans le sens où si on redémarre le processeur, on le coupe le courant et on le remet, on perd la donnée qu'il y avait dedans. Mais ça permet de stocker le code, parce que c'est facile à programmer, c'est facile à changer une valeur qu'il y a à l'intérieur. Donc ça stocke le code et ça stocke les valeurs. Donc si on a besoin d'avoir une variable qui est initialisée à une certaine valeur, si on a besoin de stocker un nombre, c'est là-dedans qu'on va tout mettre.
Donc par exemple, si moi je veux, j'avais un algorithme qui permet de calculer, je ne sais rien moi, on peut faire comme algorithme.
Fibonacci.
Ouais, Fibonacci.
Fibonacci, mais je trouve que ça parle pas. J'allais dire ça, mais ça parle pas trop. On peut faire un algorithme qui calcule ma fiche de paye, par exemple.
Ouais.
pas là-dessus. Ça doit faire le calcul de l'ensemble des charges, etc., des pourcentages, des trucs comme ça. Donc, on prend cet exemple. Il y aurait quoi dans la RAM exactement ?
D'avoir Stack Overflow. Avec ta fiche de paye, laisse tomber.
Dire, alors,
je sais pas compter jusque-là, c'est foutu.
Sur ce modèle-là, on a 16 octets de RAM, donc on ne pourra pas mettre un algorithme aussi complexe. Mais concrètement, on aurait des instructions avec les OP codes, je pourrais y revenir un tout petit peu après, et les adresses. Donc ça, c'est vraiment la programmation, en fait, c'est encore juste en dessous de l'assembleur. Donc c'est directement l'instruction processeur. Et on aurait toutes tes données, donc ton salaire du premier mois, ton salaire du deuxième mois, la somme qu'on va devoir effectuer, etc.
Ok, donc il y a les instructions, plus à chaque fois toutes les étapes intermédiaires qui sont nécessaires.
Toutes les valeurs nécessaires,
ouais. Ok.
Vraiment, toute la donnée que tu auras besoin de traiter, ça sera là-dedans.
J'ai envie qu'on revienne tout à l'heure sur les OP codes, justement,
ouais, qu'on comprenne.
Mais si on continue notre petit voyage, qu'est-ce qu'il y a après ?
Après, on a, ici, c'est le registre d'instructions. Du coup, on ne le voit pas trop à la caméra, mais...
Il va revenir.
C'est le registre d'instructions. C'est un peu la partie qui manque sur le mien, mais celui de l'image est fini, donc c'est facile. C'est ce qui va justement regérer ces OP codes, ces fameux. Donc, il va pouvoir récupérer les différentes valeurs, parce qu'en fait, les stocks sont 8 bits, mais après, on va les couper en 2x4, ce qui va permettre de gérer différentes choses. Je vais revenir peut-être un tout petit peu plus tard pour pouvoir rentrer en détail dans les OP codes.
Okay.
Et si on part sur la partie de droite, tout en haut, on a juste un compteur, ce qui permet de compter, donc de 1 à 16, enfin 15, et de récupérer aussi une autre valeur. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, là, t'en as l'instruction 3, mais j'aimerais que tu sautes à l'instruction 5, ce qui permettra de faire des boucles plus tard.
Ah, donc en fait, lui, son job, c'est comme un pointeur, comme une aiguille qui pointe sur un endroit probablement de la RAM où il y a les instructions, c'est ça ?
Lui, son job, ça veut dire, on en est à l'étape 1 du code, là on en est à l'étape 2, donc tu exécutes l'adresse 2, enfin l'instruction 2. Ensuite, on a l'adresse 3, 4, 5. Ah, on m'a demandé de revenir à l'adresse 2, donc je refais l'adresse 2, etc.
Ok.
Ouais, c'est ce que tu disais, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que tu avais en tête, ouais, du coup.
Ouais, je crois. Ouais. Oui, donc, lui, il retient une valeur, il retient comment on avance dans le programme.
Complètement.
Après.
Juste en dessous, on a deux registres et l'ALU. Donc l'ALU, c'est l'Operational Logic Control Unit.
Ouais. Oui.
Donc c'est tout ce qui additionne et qui soustrait, c'est ce qui calcule concrètement.
Donc et c'est addition et soustraction et c'est tout.
Ouais, sur celui-ci en tout cas, ouais. Et on a les deux registres. Les registres, ce sont des blocs mémoire processeur qui permettent de stocker une donnée sur 8 bits. Donc il y en a plein dans les registres, dans les processeurs actuels. Par exemple, peut-être que certains ont entendu parler de EAX, de RAX.
Vous n'avez pas entendu, c'est normal.
Bon, hier, à l'apéro.
Vous avez fait un peu d'assembleur, en tout cas, c'est avec les registres qu'on traite, parce que c'est la RAM interne au processeur. En l'occurrence, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que tout est sur ce même bloc.
Mais en gros, c'est des endroits qui peuvent stocker moins d'informations.
8 bits.
Mais qui vont être beaucoup, beaucoup sollicités, c'est ça ?
C'est ça. Et donc, par exemple, la somme est entre les deux, ce qui permet, par exemple, de calculer A plus B, A moins B, et de donner le résultat.
Ah oui, en fait, quand on dit que ça va plus vite, on peut le voir littéralement, physiquement.
Concrètement.
Parce que c'est plus proche, quoi.
Ouais.
C'est trop marrant.
et après... parce que c'est branché directement dessus. Ça passe même pas par le bus.
Ok. Ah, mais oui, c'est ça. En fait, il y a plein de trucs que j'ai déjà lus en mode... Ouais. Et donc ça fonctionne comme ça, mais le voit aussi littéralement, c'est hyper intéressant. Et donc il reste des parties.
Il reste juste en dessous, c'est la sortie, c'est l'output. Donc c'est un affichage 7 segments qui est contrôlé par une EEPROM. Donc c'est une petite
explication.
On avait dit pas d'anglicisme, merde.
Désolé.
Non, je déconne. Là, ces termes ils sont compliqués en français.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
EEPROM, c'est Electric Erasable Programmable et Read-Only Memory.
Ouais.
Donc, à la différence de la RAM, c'est un bloc mémoire où on lui donne une valeur et ça n'a pas vraiment vocation à être modifié. C'est vraiment, on a besoin de stocker une valeur parce qu'on s'en sert tout le temps dans le processeur et que même si je l'éteins, je le rallume, il garde cette donnée. Et en l'occurrence, il est utilisé pour pouvoir faire la conversion d'une valeur 8 bits du bus à un affichage 7 segments. Parce qu'un affichage 7 segments, en fait, c'est une galère sans nom. C'est tu affiches la barre du haut, tu affiches la barre du bas, mais il n'a aucune notion de ce que c'est un nombre. Ouais. Il n'a aucune notion de est-ce que j'affiche 2 ou est-ce que j'affiche barre gauche, barre du haut. Quoi.
Donc là où, si je reprends mon exemple, à la fin de notre algorithme, on aurait un salaire, par exemple, un nombre donc, c'est cette brique-là qui transforme, par exemple, 8 en barre du haut, barre de gauche, barre de droite.
Exactement.
D'accord. Comme ça, toi, t'as pas à te préoccuper de savoir ouais. quel est le...
Non, bah c'est purement humain. Lui, il s'en fout, en fait. C'est pour nous savoir ce qui se passe sur, dans notre sortie, parce que c'est quand même vachement plus joli.
Et donc, c'est cette partie-là qui est un peu non-académique, c'est-à-dire qu'un processeur, il n'a pas vraiment d'écran intégré. A priori, c'est juste là pour ouais. pour le besoin de la compréhension, justement. Ouais. Mais alors, ce qui est quand même... Juste, je veux qu'on en vienne à un truc, c'est que là, on a fait le détail. Donc, il y a une horloge, une cloque, il y a une horloge, une RAM qui contient pas mal de données, des registres qui contiennent moins de données, mais qui sont plus utilisés. Il y a une section pour faire des additions et des soustractions. Il y a... Qu'est-ce que j'ai oublié ?
Donc, la RAM, tu l'as dit.
Il y a un bus.
Tu l'as dit, ouais. le truc, ouais.
Bon, en gros, il y a ces éléments-là.
C'est la partie opcode que j'ai juste pas trop
ça, compris. Avec juste ça, tu me dis qu'on peut faire tourner théoriquement n'importe quel algorithme.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette magie et comment on pourrait essayer de l'expliquer à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce concept de Turing complete ?
Alors, Turing complete, ça se dit d'une machine, donc on peut dire qu'une machine est Turing complete si elle fait tout ce que fait une machine de Turing. Donc, il faut redéfinir ce que c'est qu'une machine de Turing. C'est un concept hypothétique créé par Alan Turing en 1936 et qui nous définit une bande de papier infinie composée de plein de cases et une tête de lecture qui peut écrire sur une case ou effacer ce qu'elle a écrit et se déplacer. Alan Turing, donc le créateur de... Enfin, c'est le précurseur de tous les processeurs, hein, c'est lui qui a cassé Enigma pour la guerre. Il nous a prouvé que grâce à un système aussi simple que celui-là, on pouvait exécuter n'importe quoi. Donc si on a n'importe quel algorithme en tête, si la bande est suffisamment longue et qu'on n'a pas un problème de temps, on fait ce qu'on veut. Donc on dit qu'une machine est Turing complete si on peut faire ce qu'on veut.
Et donc qu'on remplit ces quelques critères, c'est-à-dire pouvoir se déplacer, et lire et écrire des instructions. Et en fait, il suffit de ça, quoi. Mais là, typiquement, j'ai une question con, mais tu peux faire des additions, des soustractions. Ça veut dire que mon algorithme où il y a besoin de faire un pourcentage, tu peux pas le faire ?
Ça veut dire que je vais devoir le détourner. On peut toujours se ramener à des additions ou des soustractions. En général, on peut faire des décalages de bits, on peut réussir à faire des opérations comme ça. Et on peut aussi reconstruire un petit bout d'électronique qui fait un truc un peu plus... Par exemple, on peut faire un circuit qui fait une multiplication. Là, c'est pas le cas. Là, on fait des additions successives, mais c'est faisable.
Et à quel point ça, j'imagine que c'est la version extrêmement simplifiée. Mais là, moi, si je voulais refaire ça, tu penses que ça prendrait... Toi, ça t'a pris combien de temps, en fait, d'arriver à alors que t'avais pas vraiment de connaissances en électronique, etc., d'arriver à ce résultat-là?
Alors, c'est pas tout à fait un vrai temps que je vais vous donner parce que j'ai acheté tous les composants en novembre 2022 et je l'ai pas encore tout à fait fini. Donc, on va dire que ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, je le continue que pendant mes vacances parce que je l'ai laissé chez mes parents. Qu'il y a beaucoup de moments où, au final, j'y ai pas trop touché parce que j'avais d'autres choses à faire, parce que c'était dans mes cartons. Mais je pense que quelqu'un qui s'y met vraiment en un mois, peut-être deux, le temps vraiment de comprendre, de se renseigner, etc., il peut réussir à faire ça.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Franchement, c'est un bon projet.
Ouais.
Et alors, justement, maintenant qu'on a un peu fait le tour du terrain et qu'on a compris c'était quoi le concept d'une machine de Turing, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ces histoires d'instructions, justement? Donc là, parce qu'on a parlé des endroits qui font des additions, multiplications, enfin, additions, soustractions, mais comment tu programmes tout ça? Comment tu expliques à ton processeur quelle suite d'instructions il va devoir faire? Tu as parlé d'opcode, notamment.
Ouais, c'est là où on revient aux opcodes. En fait, vous avez peut-être déjà entendu parler des jeux d'instruction. Donc, c'est ces fameux Intel x86, ces fameux ARM. En fait, c'est tout bêtement le langage du processeur. Donc, quand on code en assembleur dessus, on a des instructions finalement assez simples, comme par exemple MOV EAX 4. Donc, on met la valeur 4 dans le registre EAX. En l'occurrence, dans mes registres, c'est A et B. Bon.
Donc là, toi, cette ligne-là, ce qu'elle ferait concrètement, c'est...
Elle serait traduite par quelque chose que moi, j'ai défini, donc mon propre jeu d'instruction, en MOV, ça vaut la valeur 1, et le 4, on le garde de côté, c'est une adresse. Ensuite, c'est là où est la partie des petites lettres bleues sur le côté. On aurait une EEPROM qui va regarder, tiens, il m'a demandé 1, moi, je sais ce que ça veut dire arrêter tout le monde, mettre le registre A en écoute et demander à la, enfin envoyer l'adresse 4 sur le bus, demander à la RAM de récupérer cette adresse 4 et d'envoyer son contenu sur le bus pour qu'au final la valeur de la RAM soit envoyée sur le registre A.
En fait, c'est un aiguilleur en fait. Il explique à. Mais c'est vrai que c'est tellement bas niveau, c'est au niveau électrique qu'on n'a pas l'habitude d'y penser. Mais il demande à chaque composant. De faire se déplacer un signal électrique, en fait.
Ouais,
c'est juste
donc
ça.
Tout bêtement, il en arrête certains, il en lance certains, il coupe du courant, il en met certains en pause pour que le courant va être d'un point A à un point B comme il faut. Et ça, c'est une instruction qui est gérée par un nombre qu'on a défini auparavant, et c'est ça l'OP code.
Et donc, en fait, moi, quand mon programme, il se transforme en assembleur, après, il est encore transformé en nombre, c'est ça?
Ouais, bah... En fait, on n'est pas très loin. C'est que quand tu prends ton assembleur et que tu l'assembles avec un assembleur, tu te retrouves avec de l'hexadécimal, avec du binaire, enfin, comment tu le lis. Et c'est ça, c'est directement le nombre qui donne à ton processeur. Il faut que tu fasses cette instruction électrique.
Il sera interprété comme un signal électrique.
Ouais.
C'est assez. En fait, je trouve ça assez vertigineux. Je sais pas comment dire, mais je s'imaginais que tout ce qu'on utilise là, mon iPad, mon OS, tout à la fin est traduit. Avec une machine aussi simple que ça. Alors, par-dessus, évidemment, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que nos processeurs, ils ont monté en complexité pour gagner du temps, optimiser, mais fondamentalement, à la base, ils font pas autre chose que ça, quoi.
Ouais. Un chiffre de comparaison, par exemple, c'est que là, mon horloge, si je la mets au maximum à pleine balle, je suis à 500 Hz. Un processeur actuel, c'est 3,6 GHz. Ça fait 7 200 000 fois plus.
et en 7 millions, avec et en 1000 fois plus petit que ça en plus.
Ouais, en plus.
C'est
et c'est pas du 8 bits, c'est du 64, et il n'y a pas qu'un seul registre, et ils sont beaucoup plus fins.
Ouais.
On arrive à graver en 7 nanomètres, je ne suis pas encore en 7.
Il te reste encore du boulot, quoi, c'est ça que tu es en train de dire, pour atteindre nos processeurs modernes.
Et donc je ne suis pas une fonderie à moi tout seul.
Donc là, on a donné le... La première différence avec un processeur normal, c'est la vitesse de l'horloge. Est-ce qu'il y a d'autres différences?
Ouais, carrément, la taille du bus, tout bêtement, et du fait qu'il n'y en ait pas qu'un seul. Donc c'est ça, quand vous dites processeur 64 bits, processeur 32 bits, en fait c'est la taille du bus et la taille des registres qui stockent les informations. Donc là je suis en 8 bits, donc 8 valeurs, donc ça va de 0 à 255, alors que vous, ça va de 0 à... j'ai oublié une valeur 64 bits, mais c'est un nombre tellement énorme.
Et parce que moi, je me souviens de l'époque déjà où on est passé du 32 au 64 bits. Et c'était un peu un bordel parce que tu avais tes logiciels, ils étaient compatibles ou pas compatibles, machin. En fait, c'est quoi très concrètement le bénéfice d'augmenter ce bus ? Là, toi, par exemple, si on passait de 8 à 16, ça serait quoi l'utilité ?
Bah, si dans ta fiche de paye, tu touches plus de 255 €, je peux pas te le traiter.
Ok, bonne réponse. C'est un problème.
Je te disais tout à l'heure, tu ferais overflow sur ce truc.
Je te l'ai dit. Oui, c'est tout simple. Mais du coup, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le traiter, c'est que tu dois trouver des
coupant de. Mais du coup, ça prend beaucoup plus de temps. On ne peut pas mettre des programmes aussi gros. C'est beaucoup plus compliqué pour rien. Il suffirait d'augmenter, comme on a fait, de passer de 32 à 64.
Est-ce que d'une certaine manière, c'est un peu lié à ça, les histoires du bug de je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas le bug de l'an 2000, mais je me souviens qu'il y a des histoires de dates qui pouvaient être plus grosses que... j'ai oublié, plus grosse que 32 bits, je crois. Et où justement, il y a je sais, peut-être que le chat va me fact-checker, ça pourrait être intéressant. Mais où justement, ce passage de 32 à 64 a permis d'avoir un peu plus de marge
vu qu'on compte les réinitialisation, ouais. On compte les secondes ou je sais plus quoi depuis 1970 là, mmh. Et c'est juste un nombre qui devient de plus en plus gros comme ça, et à un moment ça va forcément faire un overflow.
C'est ça.
Et si ça fait un overflow, ça retourne à zéro, donc ça sera embêtant.
Exact, parce que oui, du coup, c'est bon, j'ai le chat, c'est ça l'avantage, ma carie. Et effectivement, on compte les. En informatique, on compte les années depuis 1970.
Et du coup, t'as pas besoin du chat. Mais bon, c'est pas grave.
Et du coup, il y aurait eu un bug en 2038. Puisque 32 bits permettait de. C'est en millisecondes, ouais, c'est ça. 2 puissance 31, ça fait 68 ans. Et donc, il y aurait eu un bug en 2038 si jamais on était resté potentiellement sur les architectures actuelles. Ouf. Voilà. Mais quand ça vous donne un exemple pour des gens qui ne baignent pas dans l'informatique, d'un truc très réel, très concret, ouais, qui a à voir avec le nombre de fils.
Ouais, c'est bêtement. Parce que là, si je continue et que je monte au-dessus de 255, je retourne à zéro.
C'est terminé. Et qu'est-ce qui. Enfin, juste pour ça, avoir des ordres de grandeur, ça coûte combien de construire un truc comme ça?
Alors. Là, sachant que c'est beaucoup de pièces individuelles et que l'électronique, ça s'achète souvent en lot, j'ai dû acheter ça sur des sites américains, donc c'est Jameco. Je crois que j'ai payé 290€, plus beaucoup de frais de douane. Faites attention à ça si vous en achetez un. Je ne l'avais pas prévu à la base. Et quand UPS t'appelle en disant qu'il faut payer 90€, bon, t'es un peu moins content.
Mais globalement, en total, ça fait... Dans...
Ouais, non, 300...
300€. Oui, pour un hobby. J'allais dire, offrez ça à vos enfants, mais bon, il faut quand même qu'ils soient, qu'ils s'accrochent un petit peu.
C'est vrai, c'est pas évident.
Franchement, il devrait y avoir un kit de ça, je trouve.
Il y en a.
Ça existe. Ah.
Le type qui l'a fabriqué, Ben Eater, vend des kits sur son site. Ouais. Avec, en plus, beaucoup de travail tout fait, c'est-à-dire que les fils sont prédécoupés. Pour certains, je crois. Parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de découpe de fils tout bêtement, de mesures et de découpe et de pliage de fils.
Mais je suis sûr que si tout le monde, tous les élèves d'école d'ingé ou en info faisaient ça, on prendrait on prendrait un niveau à l'échelle de...
On ferait du C et pas du Java.
Par exemple.
La dernière fois que j'ai vu un projet comme ça, de quelqu'un qui reconstruisait un processeur entier... c'était sur Minecraft, et c'est un mec qui le reconstruisait avec de la redstone et compagnie, en fait. Et en fait, il faisait tourner Pong après, depuis Minecraft, avec que des blocs et de la redstone et tout ça. Et il reconstruisait exactement ça. Ça marche de la même manière, en fait, quoi.
Complètement. En fait, dès qu'on peut avoir une porte logique, on peut faire un processeur.
Exactement.
Et donc, il y en a qui ont fait des processeurs sur Minecraft, sur Terraria, et il y en a qui ont fait tourner Terraria dans Terraria. Ouais. Ils ont même réussi à faire un ordinateur qui joue au jeu de la vie dans le jeu de la vie.
C'est Ego qui a sorti une vidéo là-dessus, il n'y a pas longtemps.
C'est Ego qui a sorti une vidéo là-dessus.
Et justement, pour comprendre exactement cette histoire, c'est quoi une porte logique concrètement?
C'est vraiment très simple. En fait, on part par exemple d'un E. Donc on a deux fils électriques qui arrivent, tous les deux avec une certaine tension, une certaine intensité, et un fil qui sort. Si les deux fils donnent du courant, le fil qui sort donne du courant. Et sinon, ce n'est pas le cas. Et en fait, ça peut être fait avec n'importe quoi. On peut faire des portes logiques avec de l'eau. Donc, c'est deux bacs d'eau. Et si on a deux sources d'eau en même temps, ça en laisse passer. Sinon, ça bloque. Et à partir de ça, en fait, on peut partir d'une porte NAND, il me semble. Donc, c'est un non-et. Donc, c'est pile l'inverse. On peut construire toutes les autres. Et à partir de toutes les autres, on peut construire un ordinateur. C'est le principe de plein de jeux. Par exemple, il y a un jeu sur Steam qui s'appelle Turing Complete où on construit une porte NAND et après, on fait un processeur complet. C'est trop bien.
Dingue. Donc, en fait, t'as juste à avoir un principe qui... Attends, le NAND, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est ça? Attends.
Non, et donc c'est...
Donc c'est tout le temps allumé, sauf quand les deux sont allumés.
En même temps, ah oui. Ouais. Et en fait, à partir de cette brique-là, tu as la possibilité de construire les autres, en les cumulant, en les rotant d'une certaine manière, et derrière, de faire un programme, système Turing Complete, et donc de faire tourner n'importe quel programme.
Ouais.
Et donc de faire tourner Terraria dans Terraria.
Ça, c'est beau, ça.
Et ça, c'est effectivement, faut aller voir les images, c'est complètement hallucinant.
C'est très lent, par contre.
Est-ce que, toi, c'est un truc qui t'a déjà tenté? Parce que là, théoriquement, tu refais juste ça, entre guillemets, dans le monde physique.
Ouais. Alors, évidemment, ça m'a tenté, parce que je trouve ça beau. Mais je suis curieux, mais pas très patient. Faire Terraria dans Terraria, c'est des centaines de milliers d'heures, je pense. C'est vraiment des trucs de fou où tu galères parce que t'as pas vraiment la place. Les portes logiques dans Minecraft, dès que t'en fais une, ça marche. Dès que t'en mets une deuxième à côté, t'as la redstone qui commence à interagir et c'est bon, c'est cassé. Donc c'est vraiment très compliqué à faire. Mais évidemment, ça m'a toujours fasciné.
Ah, c'est fascinant, c'est toujours ultra fascinant, bien sûr. Mais du coup, je l'avais jamais vu comme ça en mode électronique pur et dur. Et c'est presque le truc qui parle le plus avec tes explications en plus. C'est la première fois que je le comprends. Alors que j'en ai bouffé des vidéos comme ça, justement, là, de ce qu'on voit exactement à l'écran actuellement. J'en ai maté plein parce que ça me fascine à chaque fois. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris le plus grâce à tes explications. Alors que pourtant, ces vidéos sont bien faites. Donc, félicitations de transmettre le savoir là, de manière aussi claire.
Tu as Minecraft dans Minecraft sous tes yeux. Ouais. Et je pense qu'il est temps. Il est temps de demander une démonstration. Maintenant qu'on a compris comment ça marchait.
Ouais, il faudrait une caméra pour faire une vidéo du dessus, mais...
On va... est-ce qu'on peut faire une... Je pense qu'on va faire la démonstration et que malheureusement, les gens en live n'auront peut-être... On va leur décrire ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, nous, on va filmer. Est-ce que tu veux faire le caméraman ?
Ouais, grave, j'ai...
Je te file ça. Et ce sera pour le... Ce sera pour le... Pour le... Pour la VOD sur YouTube. Donc là, tu viens de le connecter. Déjà, il y a des jolies LED partout et ça me fait plaisir.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va lancer comme programme ?
On peut faire un truc très simple, c'est-à-dire de le mettre en train de compter, par exemple, de 2 en 2 et afficher la sortie. Donc ça va faire 2, 4, 8, etc.
Pas mal. Première étape dans la vie, c'est d'apprendre à compter.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous montrer et puis décrire peut-être
Alors,
ce qui se passe ?
Pour commencer, tous les fils orange sont des resets. Donc dès qu'on l'active, ça remet tout à zéro. Et les fils jaunes sont donc les registres qui sont normalement gérés par les OP codes. C'est tout ce qui va être, toi tu t'actives, donc tu envoies une valeur, toi tu en reçois une, toi tu te mets en pause, etc. Donc pour pouvoir se mettre à compter, il faut qu'on libère le bus, donc c'est déjà le cas. Et on peut se mettre ici, donc je vais peut-être tourner un peu le micro.
Tu peux le déplacer.
Ici par exemple sur notre programme counter, on pourrait par exemple se mettre à 2. Donc pour ça je vais appuyer sur la cloque tout bêtement pour faire une instruction de plus. Et donc, si on se met à 2, nous voilà à 2, on peut envoyer cette valeur avec ce petit fil-là sur notre bus. Et donc là, on voit qu'on a 2 sur le bus.
Donc là, tu fais avancer le temps manuellement. Ouais. C'est-à-dire que, contrairement au processeur qui tournerait tout d'un coup, là, c'est toi à chaque fois qui fais avancer chaque étape.
C'est l'avantage, c'est que j'ai un petit interrupteur ici qui permet de mettre soit en mode automatique où la cloque défile, soit j'appuie sur un bouton et ça me fait une instruction.
Ok, donc là, pour l'instant, on a pris le chiffre 2 et on l'a déplacé sur l'autoroute.
Exactement, c'est parfaitement ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre le registre B et charger cette valeur à l'intérieur. Donc, c'est ce petit fil-là. On le met, on met un petit coup d'horloge, parce que c'est l'horloge qui commande tout, et on a 2 à l'intérieur du registre B.
Ok.
Ensuite, on peut arrêter de charger et on peut arrêter d'envoyer, pour éviter des emmerdes. Et là, on libère notre bus. Maintenant, vu que l'additionneur qui est ici, il fait A plus B et il envoie sur le bus. On peut très bien lui dire d'envoyer ce qu'il calcule sur notre bus et notre registre A, qu'on va remettre à zéro, on peut très bien lui dire de charger cette donnée. Donc maintenant, on fait 2 plus 0, ça fait 2, mais ce 2, on va le mettre dans A, qui va se additionner à 2, ce qui va faire 4, etc. Donc si j'appuie sur ma cloque, on a mis 4 en sortie, ensuite 6, 8, 10...
Trop
et
stylé.
Si je l'active complètement, là on l'automatise. Et ici, on contrôle la vitesse.
Oh, c'est tellement stylé, c'est trop stylé.
Et il y a un petit détail assez marrant.
C'est juste une addition, augmentation par deux, mais c'est trop stylé à voir.
Il y a un petit détail un peu marrant, c'est ce fil-là qui permet de contrôler l'affichage. Donc par exemple, de passer d'une version décimale à une version hexadécimale. Ou de passer d'un entier signé, donc de 0 à 255, à un entier non signé, à un entier signé, donc de moins 128 à plus 127. Et donc là, on est à 222. Et si je le mets en version signée, donc juste à inverser ce petit fil-là, on est à moins 34. Okay. Et ça permet de gérer les nombres négatifs par un complément à 2. Okay.
Très stylé. Donc là, attends, si je récapitule ce qui vient de se produire, t'avais en entrée, t'as envoyé 2 via le bus, c'est arrivé sur un registre. Ton additionneur, son job, c'est de faire 0 parce que le registre par défaut il est à 0.
Exactement.
Donc ça fait 0 plus 2. Il envoie son résultat sur l'autoroute à nouveau. Mais tu plugues ton registre de manière à réceptionner ce résultat. Donc l'autoroute elle repart dans A. Et ça continue à l'infini.
Et ça se met à compter.
C'est génial. C'est génial.
Et si on veut l'arrêter, il suffit juste de tirer un petit fil et puis s'arrêter.
Je réalisais pas quand même que tu avais un peu de travail manuel à déplacer des...
Bah justement, c'est parce qu'il n'est pas fini.
Ah.
Mais ça permet quand même de voir du coup toutes les étapes manuelles. Ouais. Et c'est là où intervient les OP codes, c'est que tous les petits fils jaunes où c'est à moi de contrôler, c'est lui qui le gère. Et donc, par exemple, l'instruction met 2 dans A, et ben, il sait qu'il faut qu'il tire ce petit fil jaune-là, qu'il tire celui-là, qu'il arrête les autres. Et c'est cette partie qui est automatique et qui n'est pas construite.
Ah, donc là, toi, pour l'instant, c'est comme si tu faisais les instructions à la main, mais qu'à terme,
il y aura... ouais, c'est ça, un petit script qui le gère complètement.
Comme dans un processeur normal, en fait. Donc ouais. Là, c'est... Pour l'instant, tu es l'algorithme, mais bientôt... Il y aura un lecteur d'algorithmes qui pourra tout orchestrer, quoi.
C'est ça, concrètement, c'est ça.
C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Mais surtout, c'est... Je vois qu'il a des grands beaux bras. Merci beaucoup pour ce cadrage. Ça va ?
Bravo.
Alors, c'est dingue, non ?
C'est complètement fascinant, mais je suis une personne complètement monotâche. Et à partir du moment où j'étais focus sur ma mission de prendre un bon plan de ce machin, et que j'ai entendu la vitesse à laquelle les instructions et toutes les explications partaient, j'ai fait « Ouais, mon cerveau s'est mis en mode le singe qui clave des trucs, là, et il n'y avait plus personne. »
Tu pourras revoir au ralenti. Mais franchement, tu verras, l'explication est limpide. Et
ça avait l'air.
Et tu vas comprendre comment marche un additionneur, quoi.
Ça avait l'air, c'était très beau et tout, mais voilà, mon cerveau, il a shut off. Je suis désolé, mais je reviendrai, je veux comprendre.
Je veux comprendre en complet. C'est trop cool. Est-ce que tu as d'autres programmes que tu as déjà testés qui fonctionnent ?
J'avais fait un Fibonacci, mais c'est très très long à faire parce que c'est à la main, mais ça se fait.
Et tu comptes le finir quand même ou...
Bien sûr, ouais. Là, j'ai pas eu le temps parce que les cours repris, parce que je me disais que si je finissais et que j'avais pas le temps de finir, il y aurait un truc à moitié fait, ça aurait été bizarre. Mais là, dans le mois qui arrive, c'est fini, sûr et certain.
Trop, trop stylé.
Venez sur le Discord, je vous ferai des updates.
C'est ça. Est-ce que, une fois que tu auras fini ce processeur, tu as d'autres idées de trucs à faire ?
D'autres idées de trucs à faire ?
L'étape d'après, ce serait quoi ? Faire un GPU ?
Je sais pas. Le type qui fait ce processeur a fait un GPU. Pas sur celui-là, il utilise un processeur qui existe déjà, c'est le 6502, donc c'est un petit processeur qu'on trouve par exemple dans la Nintendo NES, et il a fabriqué un GPU dessus.
D'accord.
Ce sera peut-être une des étapes suivantes.
Peut-être l'étape d'après.
Mais la prochaine, vraiment, je pense que ce sera augmenter la RAM, parce que là j'ai 16 octets, ce qui est très peu pour stocker un algorithme un peu compliqué. Si je veux commencer à me mettre à jouer à Pong dessus, comme certains ont fait, il va falloir que j'augmente un peu la RAM, donc là c'est la prochaine étape.
Trop stylé. Il te faudrait combien, tu penses ?
J'ai une puce de 32 kilo-octets chez moi. J'aimerais bien l'utiliser.
Okay. Trop stylé.
Le Pong, si en plus t'as pas encore fait le truc des instructions et que tu dois jouer à Pong en décablant tes trucs et en les recablant, ça va être une sacrée partie de Pong. Ça va être.
Et là, ce qui est marrant, si vous observez le programme tourné, c'est que on constate effectivement qu'une fois qu'il a fini de faire ses additions,
il retourne à zéro.
Il repart à zéro. Et prochaine fois que vous avez certains bugs, vous saurez que c'est à cause de ce problème. C'est qu'on n'a pas du stockage.
Il y a des overflows.
Très, très intéressant. Est-ce qu'il peut expliquer comment les transistors font des portes logiques ?
C'est à peu près le même principe. Un transistor, ça peut être vu comme un interrupteur contrôlé électriquement. En les mettant dans un certain ordre, dans une certaine disposition, on peut faire en sorte de fabriquer une porte logique. Parce que c'est des interrupteurs électriques, donc... Tu en mets un, quand on actionne un autre, tu les mets en série, en parallèle, et tu arrives à construire des portes logiques. Et effectivement, c'est un bon point parce que nos processeurs sont entièrement faits avec des transistors.
Autre proposition, quelqu'un qui a 64 gigas de RAM à te prêter si tu as envie. Je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir les brancher tel quel, à mon avis. Mais en tout cas, la proposition est là.
Acceptable.
trop cool, franchement, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a oublié de couvrir sur ce projet ou des trucs marrant que toi t'en étonné en faisant le projet ou des parce que j'imagine que c'est quand même l'occasion aussi de découvrir le fonctionnement d'un ordi. Est-ce que t'as eu un peu des surprises de ah ouais, ok, c'est comme ça que ça fonctionne?
Ah bah ouais, j'ai pas arrêté d'être épaté, c'est super intéressant. Après, c'est vrai que j'avais joué aussi à des jeux de processeurs, donc Turing Complete, c'est le jeu sur Steam dont je parlais, qui m'ont déjà appris un peu les bases, mais bien sûr. Par contre, j'ai surtout eu des galères en fait avec ce processeur. Des fils qui sont mal branchés, bon, ça c'est la base. Mais des trucs un peu plus sournois, comme des résistances pas assez élevées, qui laissent pas assez passer de courant, enfin, qui prennent trop de courant et qui bloquent tout le bus. Ça, par exemple, c'est des erreurs bien reloues.
Plus dur à identifier, oui. Ouais. Et ouais, sinon, pas de trucs marquants qui t'ont fait marrer ou qui t'ont étonné en construisant ce truc.
Des trucs marquants.
Non, mais déjà, je pense qu'il y a un moment où tu lis le binaire, non? ça paraît assez évident pour ceux qui font peut-être du bas niveau, etc. Mais est-ce que là, tu vois toutes ces diodes clignoter? Tu sais exactement à quel nombre?
Il faut un petit instant de réflexion parce qu'en calcul mental, je suis vraiment une bille. Mais oui, en soi, c'est vraiment des additions et des puissances de 2, donc c'est pas ce qui est le plus dur.
Après avoir passé des heures à trifouiller.
Du moins, ça me fait plus peur, quoi. Avant, je me disais, oh, les adécimales, ça a l'air de faire peur, oh, le binaire, c'est ténébreux. Pas du tout, c'est vraiment très simple.
Ouais, c'est ça. Et au-delà de ce genre de truc, est-ce que... Si tu devais faire un peu la conclusion, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de faire ça, au-delà du pur savoir technique?
Bah, ça m'a apporté surtout une compréhension de comment fonctionnent les choses. Ça m'a apporté un peu de minutie aussi avec les câbles, parce que franchement, c'est galère. Mais ça m'a surtout donné envie de continuer à faire des codes un peu bas niveau, peut-être pas autant, peut-être du C, c'est bien, hein, mais ça donne envie de comprendre ce qu'on fait, parce que du coup, on peut réussir à faire des optimisations de fou. C'est vachement passionnant.
C'est évident que ça se traduit, ce genre de connaissances se traduit en fait après, même si tu vas pas reconstruire des processeurs toute ta vie, mais pour les gens qui commencent à apprendre la programmation, avoir ce niveau de compréhension, c'est évident que ça vous sera utile.
Si vous êtes un designer de processeurs et que vous cherchez un alternant, franchement, je dis pas non. Hein.
Bah, voilà, ça t'ouvre déjà des portes de ouf. Enfin, ce projet-là, les gens ils vont.
Tu auras des propositions d'alternance dans les commentaires. Ne t'en fais pas.
Bien sûr.
On va te trouver une alternance. Merci encore de ta disponibilité pour la réactivité, puisque pour les coulisses,
grand plaisir.
Ça s'est fait en quelques jours parce que tu as publié justement ton travail sur le Discord et on a tout de suite trouvé ça génial. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord et nous partager vos créations. Et puis on arrive doucement à la fin de cette émission. Et c'était vraiment intéressant.
Quel banger.
Ouais, trois trucs qui n'avaient rien à voir.
Ouais.
Vraiment,
ouais.
On a changé complètement d'univers.
Les invités aussi, c'est innovant, c'est bien.
Voilà, exactement, c'était assez nouveau. On vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch. On revient exceptionnellement. Il y a un changement de rythme. Ouvrez bien vos oreilles. On revient mercredi prochain.
Oh.
Eh oui. On revient mercredi prochain à 19h.
Trop bien.
Voilà, parce que pourquoi pas. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous mes merveilleux invités et chroniqueurs de ce soir. On vous retrouve Benjamin Code sur Twitter et sur YouTube pour des nouvelles aventures. Si vous voulez suivre la création du SaaS de Benjamin, c'est assez marrant. Tout est documenté sur YouTube. Et où est-ce qu'on peut te retrouver?
Moi, sur le Discord surtout. Et sinon, j'ai un Twitter, mais il est assez mort.
Bah, venez sur Discord, voilà. Et venez parler. On est bien. Et sur ce, très bonne soirée et à bientôt. Bye bye.
Merci à tous. Ciao, ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.